السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، toujours dans la lecture de cette lettre, ce message adressé à l'ensemble des gens, musulmans soient-ils ou non, par l'éminent savant de l'islam, Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di rahimahullah, qu'il a intitulé « Les moyens utiles pour une vie heureuse ». L'auteur de cette lettre, qu'Allah lui fasse miséricorde, après nous avoir parlé de l'importance de l'évocation du nom d'Allah et de ses effets dans la dissipation des soucis et que cela procure à la personne la joie, le bonheur tant recherché par tout le monde, il passe maintenant à la mention d'un autre parmi les moyens aidant la personne au bonheur. Et nous dit, d'après le sens rapproché, il en fait partie également le fait de mentionner les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala par lesquels le serviteur s'est vu comblé, que ces bienfaits soient apparents ou intérieurs. Certes, le fait de connaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, de les reconnaître et d'en parler, dissipe du cœur de la personne ses soucis, ses inquiétudes, ses préoccupations et encourage cette dernière à se montrer reconnaissante envers le donateur, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration que l'on appelle « al-shukr », la reconnaissance, fait partie des plus hauts degrés de la dévotion pour Allah et de la servitude que l'on se doit de lui manifester, subhanahu wa ta'ala. Au point où si le serviteur se voit éprouvé par la pauvreté, par la maladie ou autre parmi les catégories d'épreuves douloureuses, s'il médite et compare les maux et douleurs qui l'ont touché aux nombreux bienfaits par lesquels il s'est vu comblé d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont indénombrables, eh bien il verra que ce qu'il a touché par rapport à ce qu'il a obtenu comme grâce n'est pas beaucoup. D'ailleurs, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète Ayyub alayhi salam. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, nous informant de ce noble messager, de ce noble prophète, nous enseigne qu'il était malade. Et beaucoup savent combien était grave et douloureuse la maladie de notre prophète Ayyub alayhi salam. Il s'est montré endurant. Il perdait sa peau. La couleur de sa peau a changé. Les gens s'éloignaient de lui tellement ils étaient répugnés par ce qu'ils voyaient. Il a enduré. Et la seule personne qui est restée à ses côtés était sa femme ainsi que deux frères. Eh bien, Ayyub alayhi salam a énormément souffert, mais il s'est montré endurant. Il a fait preuve de patience. Et les savants nous disent que sa maladie a duré 18 années. Ayyub alayhi salam a vécu pendant 70 ans en bonne santé et a souffert pendant 18 ans. Qu'a-t-il fait? Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et l'a remercié en lui disant qu'Allah lui a fait vivre 70 ans en bonne santé et que 18 ans comparé à 70, ce n'était rien. Allahu Akbar. Et dans l'histoire du prophète Ayyub, on nous enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a apporté une guérison, si bien qu'il est devenu tellement beau que sa femme ne le reconnaissait même pas. Ce sont des enseignements du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, nous encourage, nous ordonne plutôt le fait d'évoquer ses bienfaits en nous disant « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » c'est-à-dire « Quant aux bienfaits de ton Seigneur, parle-en ». Il est bien de parler des bienfaits par lesquels la personne s'est vue comblée, car cela apporte au cœur une quiétude, une envie de se montrer reconnaissant envers Allah et empêche la personne de mépriser les bienfaits d'Allah ou de se montrer opposant à la décision d'Allah lorsqu'elle est éprouvée. Et c'est extrêmement important à ce moment-là précisément de faire la comparaison entre le grand nombre des bienfaits qu'Allah nous a octroyés et l'épreuve qui nous touche pour se rendre compte que si au final c'est le paradis qui est gagné puisque l'on a patienté devant cette épreuve tout en ayant mangé et tiré profit de tous les autres bienfaits qu'Allah nous a donnés, eh bien on en sortira avec une endurance sans pareil. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » Fais la bonne annonce aux endurants. Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés d'un malheur, disent « Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que s'effectuera notre retour. » Allah subhanahu wa ta'ala a surnommé ces gens-là par le meilleur nom possible, les endurants as-sabirin. Et les endurants sont ceux qui se verront octroyer par Allah les plus grandes des récompenses, car l'endurance est une grande adoration desquelles découlent de la part d'Allah des récompenses sans limite. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Dans le sens du verset, Allah rétribuera pleinement les endurants sans compte. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le croyant regarde les bienfaits par lesquels il a été comblé, il voit aussi les péchés qu'il a commis, et en plus de cela, il espère la récompense d'Allah. Alors son cœur se détend, sa poitrine s'élargit, il s'adoucit, et la quiétude s'empare de son cœur et de sa personne. Et les soucis deviennent autres que des soucis. Subhanallah. Ainsi, si le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala se conduit de cette façon, lorsqu'il est atteint de quelque chose qui vient le peiner, l'attrister, il verra que sa tristesse va être allégée par la permission d'Allah. Et l'auteur de cet ouvrage, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit « Les choses qui sont détestables, ainsi que les malheurs et douleurs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala éprouve le serviteur. Si ce serviteur, au cours de ses douleurs et épreuves, met en pratique la fonction de l'endurance, de la satisfaction et de la soumission à Allah, à ce moment-là, la douleur deviendra plus légère, la souffrance s'amoindrira par la permission d'Allah, et l'espoir que le serviteur aura de la récompense d'Allah sera grand. Ainsi, il aura adoré Allah dans cette situation de difficulté en remplissant sa fonction d'endurance et de satisfaction, à un point tel où les choses amères deviendront suaves, où la saveur de la foi qui habite son cœur lui fera oublier l'amertume de l'endurance lorsqu'il patiente face au malheur. Et ces paroles sont extrêmement importantes, car le serviteur d'Allah, en réalité, a le devoir d'adorer Allah dans toutes les situations. Et les différentes situations de la vie se divisent en deux, la situation de l'aisance et celle de la détresse ou de la difficulté. Le serviteur d'Allah se doit de manifester à Allah cette servitude pour laquelle il a été créé dans les deux cas. Lors de l'aisance, son devoir sera de se montrer reconnaissant. Lors de la détresse, son devoir sera de se montrer endurant. Un des grands savants de l'islam, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son ouvrage intitulé « Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib » L'averse abondante de bonnes paroles. Un magnifique ouvrage qui traite de l'importance de l'évocation d'Allah et des moyens d'écarter de soi Shaytan et sa ruse. Dans l'introduction de cet ouvrage bénéfique et grandiose, il nous explique ce qui vient d'être dit, à savoir que le serviteur fait face dans sa vie à deux situations, l'aisance et la difficulté. Et il nous dit que la plupart des gens ne manifestent pour Allah l'adoration et la servitude que dans la situation de l'aisance. Mais dès lors qu'il y a une difficulté, très peu sont ceux qui se montrent serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il donne en exemple pour illustrer cela l'image de la personne qui accomplirait ses ablutions alors que la chaleur est intense en utilisant une eau fraîche. Nul doute que ceci est une ablution et une adoration. Mais prenons maintenant le cas d'une personne qui, elle, va devoir faire ses ablutions avec de l'eau froide alors qu'elle est en hiver et que le froid est glacial. C'est aussi une adoration. Mais l'adoration où il y a eu une difficulté, une souffrance, est meilleure que celle qui a été faite de façon simple et facile. Et les gens qui concrétisent ces deux catégories d'adoration, et surtout celle lors de la difficulté, à savoir l'endurance, la fermeté dans sa foi, eh bien, prendront une grande part de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit « Alaysa Allahu bikafin abda » N'est-ce pas qu'Allah suffit à ses serviteurs? Les serviteurs dont il a parlé ici sont les véritables serviteurs manifestant leur servitude pour Allah tant bien dans l'aisance par la reconnaissance que dans la détresse par l'endurance. Et surtout lors de la détresse, ils se montrent endurants. Par Allah, ces gens-là ne peuvent être que des gens heureux. Par Allah, ces gens-là ne peuvent être que des gens qui vivent avec la douceur de la foi au cœur, malgré la lourdeur des épreuves apparentes les atteignant, tant bien dans leurs biens financiers que dans leur santé ou dans la perte de leurs proches, car ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ » Et nous vous éprouverons très certainement par un peu de par un peu de peur, de faim et de diminution dans les biens, dans les âmes et dans ceux qui vous entourent, ou dans les fruits, pardon. Donc ici, Allah nous enseigne que l'on va être éprouvé, qu'Allah nous accorde l'endurance et la patience. Mais il nous dit... Fais la bonne nouvelle, annonce la bonne nouvelle aux endurants. L'imam Abdurrahman al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, parmi les choses les plus utiles dans ce domaine-là précisément, le fait de prononcer ces mots vers lesquels nous a orienté le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le récit authentique, disant « Unzuru ila man huwa asfalu minkum » ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: observez les gens qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela vous amènera à ne pas mépriser les bienfaits d'Allah sur vous. De quoi parle-t-il, alayhi salatu wassalam, dans ce récit rapporté par l'imam Muslim, Ahmad, At-Tirmidhi, Ibn Majah, d'après le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée? La réponse, il nous enseigne que dès lors que la personne compare la difficulté qui la touche ou les biens qui lui ont été donnés par Allah à une autre personne qui, elle, s'est vue préservée de cette épreuve qui l'a touchée elle, ou qui s'est vue octroyer bien plus de biens que elle n'en possède, cela la conduira très certainement à mépriser le bienfait d'Allah, à le mépriser et à ne pas se rendre compte de sa valeur ni de sa grandeur. Et ce comportement envers Allah ne sied pas au croyant et ne convient pas. Le croyant, lui, regarde ceux qui sont au-dessus, en dessous de lui, pardon. Et nul doute que de manière inévitable, on trouvera toujours des gens qui, dans les douleurs, les malheurs, la détresse, seront bien plus souffrants que nous. quoi que l'on ait atteint comme niveau de difficulté ou de souffrance. Si tu te plains, si tu souffres plutôt, parce que tu as perdu un proche, peut-être que ce proche, tu as vécu longtemps avec lui. Sache qu'il existe des gens qui n'ont pas eu l'occasion de vivre avec ce proche que tu as perdu après avoir vécu tant d'années et partagé et donc profité avec lui. D'autres ne les connaissent même pas. Combien sont ceux qui ne connaissent pas leur père, qui ne connaissent pas leur mère, qui ne connaissent pas leurs grands-parents, qui ne connaissent peut-être même pas leurs frères, leurs sœurs, peut-être leurs frères jumeaux, leurs sœurs jumelles, parce qu'ils ont été éprouvés par la mort de ces derniers en bas âge, par exemple. Si tu te plains parce que tu es malade, si tu souffres parce que tu es malade et tu es donc alité, tu ne peux plus te déplacer, que dire alors de la personne qui, elle, n'a jamais pu se déplacer? Si tu te plains ou tu souffres de la diminution de ta subsistance, que dire alors de la personne qui, elle, n'a jamais eu de quoi rassasier sa propre personne et les siens, les gens qui les entourent? Si tu te plains d'un quelconque manque, si tu te plains de cela, tu trouveras toujours quelqu'un qui souffre beaucoup plus que toi et qui voudrait tant avoir ce que toi tu as eu. Et c'est ainsi que tu te diras finalement, je suis dans un bienfait immense. Et ça, c'est que le croyant qui peut ressentir ce sentiment qui viendra dissiper toutes ses inquiétudes, tous ses soucis et épanouir sa vie et élargir sa poitrine. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit que quand le serviteur d'Allah met l'observation de cet aspect face à ses deux yeux, il se rendra compte qu'il a dépassé beaucoup de gens. Malgré le fait qu'il ait éprouvé, il a dépassé en réalité beaucoup de gens dans le salut qu'il a obtenu, dans la préservation de ses biens, des siens, de sa santé, de sa subsistance et de tout ce qui en découle. Peu importe l'état que cette personne aurait pu atteindre, il y aura toujours des gens qui ont bien plus souffert qu'elle. Et là, les inquiétudes, les soucis, tout cela disparaîtra et prendra leur place la joie, le bonheur et la gaieté à l'idée de voir les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus le regard du serviteur est porté de manière allongée sur les bienfaits d'Allah apparents et intérieurs, les bienfaits d'Allah intérieurs. Que sont les bienfaits d'Allah intérieurs? Le fait de pouvoir être un croyant. Car la pire des épreuves n'est pas la maladie du corps, bien qu'elle soit une épreuve lourde, qu'Allah nous en préserve et épargne les musulmans. Il n'en demeure pas moins que la véritable épreuve est le fait d'avoir un cœur qui soit malade, un cœur qui soit loin d'Allah. Car au final, on finira tous par quitter ce bas monde. D'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre, tout cela est déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui compte, c'est de quitter ce bas monde sur l'unicité d'Allah, sur la proximité avec Allah, sur l'application des ordres d'Allah, sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète de l'islam alayhi salatu wassalam fut atteint d'une maladie tellement forte et douloureuse qu'il informa sa noble fille Fatima, qu'Allah l'agrée, qu'il souffrait comme deux hommes souffraient, alayhi salatu wassalam. Il avait en sa présence une outre remplie d'eau dans laquelle il trempait un vêtement pour se frotter le visage et dire « Inna lillahi » et dire « La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat » Nulle divinité ne mérite réellement d'être adorée, excepté Allah. Certes, la mort a ses affres. C'est donc quelque chose qui est inévitable. Et le fait de penser de cette façon te fera au final profiter des bienfaits dont tu disposes au moment présent. Car très souvent, les soucis te font oublier les délices et les bienfaits qui t'ont été donnés et t'amènent à penser à des choses qui au final ne te sont pas connus, car tu ne sais pas ce qui va t'arriver et tu ne sais pas ce qui va arriver à telle ou telle autre personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la joie et le bonheur. Ainsi, l'imam Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui, je vous le rappelle, a écrit cette lettre et ce conseil adressé à l'humanité, que je suis en train de vous lire ou traduire, il a écrit cette lettre alors qu'il était alité, hospitalisé. Il souffrait d'une grave migraine qui était tellement forte que son médecin lui avait interdit de lire et d'écrire. Et malgré cela, et dans cet état, Allahu Akbar, dans cet état, que fait-il? Il enseigne aux gens comment atteindre le bonheur. C'est dans cet état qu'il a écrit les quelques lignes que nous sommes en train de lire. Qu'Allah les fasse miséricorde. Il passe à un nouveau chapitre et dit, également fait partie des causes attirant à la personne la joie, la dissipation des peines et tristesses, le fait de s'investir afin de chasser toutes les causes de soucis et d'obtenir toutes les causes de la joie. Comment cela? Il nous l'explique. Cela en oubliant toutes les douleurs passées qui ne sont pas rattrapables. Et en gardant à l'esprit que le fait de penser tout le temps et constamment à des choses douloureuses relevant du passé, qui ne sont finalement pas rattrapables, relève de la folie et de la perte de la raison. Beaucoup n'arrivent pas à se débarrasser des peines qui les affligent et les attristent et qui sont en rapport avec des choses relevant du passé, alors qu'ils savent que le passé est irrattrapable. Je leur pose la question suivante. Quel est l'intérêt? À quoi cela sert-il de s'attarder à se remémorer de manière constante des choses que l'on ne peut et l'on ne pourra jamais rattraper? C'est inutile, c'est une perte de temps. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, et a agi selon sa volonté d'après une sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous dit l'auteur, le serviteur doit combattre son âme et son cœur et s'empêcher de penser à ce genre de choses, tout comme il doit combattre son âme et son cœur afin de repousser les inquiétudes en rapport avec l'avenir. Et cela se manifeste, nous dit-il, quand la personne s'imagine ce qui pourrait lui arriver. Beaucoup de gens, surtout en ces périodes-là d'épidémie, de maladie, s'imaginent qu'ils pourraient tomber malades, qu'ils pourraient s'appauvrir, qu'il pourrait leur arriver telle et telle chose. Et au final, ce ne sont que des imaginations. Elles ne sont pas fondées. Car l'avenir est dans la main d'Allah et c'est lui qui connaît l'avenir, subhanahu wa ta'ala. Il est donc absolument inutile de se dire « la maladie va peut-être m'atteindre, la pauvreté va peut-être me frapper, mes enfants ne trouveront plus de quoi manger, comment vais-je faire, que dois-je faire, qu'est-ce que je dois faire ?» Et j'en passe. Si bien que certaines personnes nous parlent de leurs inquiétudes dans ce sujet et nous disent qu'elles en perdent des kilos. Tellement le stress les habite, tellement la panique les habite, nous disons à ces personnes, vous êtes croyants, vous avez Allah avec vous, subhanahu wa ta'ala. Ne pas penser à des choses relevant de l'avenir qui nous sont complètement incertaines et totalement inconnues. Seul Allah, subhanahu wa ta'ala, connaît l'avenir. Certains craignent la pauvreté, certains craignent la maladie, certains craignent telle et telle chose. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas se prémunir, qu'il ne faut pas prévenir le mal que l'on redoute. Cependant, cela ne doit pas habiter notre esprit à tel point qu'on en perd du poids, à tel point qu'on en perd la concentration dans la prière, à tel point qu'on se laisse aller. Ce n'est pas l'état du croyant proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le croyant, lui, nous dit l'auteur, sait pertinemment que tout ce qui relève de l'avenir lui est en réalité inconnu. Que ce soit un bien, un mal, des espoirs qu'il aurait ou des douleurs qu'il redoute, tout cela est dans la main de Allah al-Aziz al-Hakim, le Tout-Puissant et le Sage, subhanahu wa ta'ala. Aucune chose de tout cela n'est dans la main d'un seul des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose que les serviteurs peuvent faire, c'est le fait de s'investir pour obtenir le bien recherché et souhaité, et repousser le mal redouté. C'est la seule chose que l'on peut faire, et c'est là que nous devons nous investir. Quant aux soucis et aux inquiétudes, elles ne sont d'aucune utilité. Le serviteur sait que s'il dirige ses pensées et son esprit dans ce que l'on vient de dire et s'en remet à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, son cœur va goûter un apaisement qui est inestimable et que l'on ne peut décrire. On ne peut le décrire. Et combien parmi les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, combien parmi les pieux prédécesseurs ont souffert, ont vécu des difficultés que l'un d'entre nous n'aurait jamais pu supporter. Et pourtant, jamais nous avons lu dans un récit de ces gens-là une seule plainte. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, a souffert une souffrance connue par Allah subhanahu, mais au moment de sa mort, on lui a fait entendre que certains parmi les pieux prédécesseurs étaient d'avis que le gémissement de la personne souffrante était une forme de plainte manifestée à l'égard de la décision d'Allah. Eh bien, dès lors qu'il a entendu cette parole, il s'est retenu et n'a plus gémi. Il a souffert en silence. Rahimahullahu ta'ala. Un des pieux prédécesseurs a été atteint à la jambe, à tel point qu'on a dû lui amputer. Et dans la même journée, il a perdu un de ses enfants. Il a dit, « Oh Allah, j'avais 7 enfants, tu m'en as pris un et m'en as laissé 6. 4 membres, tu m'en as pris un et m'en as laissé 3. » Un des pieux prédécesseurs également a été éprouvé, il a souffert au point d'être paralysé, sauf la langue. Et il a dit, « Comment pourrais-je me plaindre alors que ma langue est toujours saine par laquelle je peux évoquer le nom d'Allah ?» Subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que le croyant s'apaise et c'est ainsi que le croyant se repose et voit la dissipation de tous ses soucis, de toutes ses inquiétudes. Et parmi les choses les plus utiles également dans ce domaine, nous dit l'auteur, qu'Allah les fasse miséricorde, Abdurrahman As-Si'di, retenez bien ce nom, Abdurrahman As-Si'di, un grand savant de l'islam, qu'Allah les fasse miséricorde, parmi les choses les plus utiles concernant l'avenir, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces paroles que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khayr. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim, d'après Abu Huraira, il est facilement trouvable dans les livres où sont compilées les invocations du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans cette invocation, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ô Allah, je t'implore de réformer ma religion, qui est la source qui est ma source de protection, c'est-à-dire ce sur quoi je m'attache et ce à quoi je me cramponne. Je t'implore de réformer ma religion. Deuxièmement, je t'implore de réformer ma vie d'ici-bas, dans laquelle je vis. Troisièmement, je t'implore de réformer pour moi ma situation dans l'au-delà, où s'effectuera mon retour. Quatrièmement, et fais en sorte que cette vie soit pour moi un ajout de tous les biens et que la mort soit pour moi un repos de tous les maux. Subhanallah, combien était éloquent le prophète alayhi salatu wassalam qui s'est vu donner par la permission d'Allah l'art de réunir dans des termes courts et concis d'énormes sens et très lourds. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah de protéger sa religion, car c'est la base de tout. Si tu perds ta religion, tu as beau être le plus riche, tu as beau être le plus cultivé, tu as beau être le plus fort, tu as beau vivre longtemps, tu as beau posséder tout ce que tu veux, au final, tu n'as absolument rien si tu n'es pas proche de ton Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la réforme de la vie d'ici-bas. Lorsque l'on vit dans cette terre, on est dans le besoin de manger, boire, se vêtir, commercer, échanger et faire tout ce qui est bon pour l'homme. Eh bien, cela passe par l'aide d'Allah qu'il donne à son serviteur. De réformer ensuite l'au-delà. L'au-delà pour lequel on se prépare à la rencontre d'Allah. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah subhanahu wa ta'ala de réformer sa religion, sa vie mondaine et sa situation lors de la rencontre d'Allah. Car avec la religion, la personne chemine vers Allah. Et avec la vie mondaine, la bonne subsistance et toutes ces bonnes choses que l'on recherche, la personne se voit stable et donc elle a l'occasion d'adorer Allah et d'accomplir dans cette vie d'ici-bas ce pour quoi elle a été créée. Et ainsi, elle rencontre Allah dans l'au-delà, satisfait de son Seigneur et trouvant un Seigneur satisfait d'elle, subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, lui, demande à Allah de faire que cette vie soit un ajout de chaque bien existant et que la mort soit pour lui un repos contre tous les maux. L'auteur, rahimallah, nous dit également, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans son invocation, le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, d'après Abu Bakra, qu'Allah l'agré, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et l'on retrouve cette invocation dans l'ouvrage de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé Al-Kalim al-Tayyib, les bonnes paroles. C'est un petit livre où sont compilées des invocations du prophète, alayhi salatu wassalam. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Ô Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Ne me laisse donc pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Et je t'implore de réformer toute ma situation, tout mon état. Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté toi seul. Il est à remarquer ici que dans la phrase en arabe, il est dit « Allahumma rahmataka arju » « Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère ». À la base, on pourrait dire « Arju rahmatak »« J'espère ta miséricorde ». Mais pourquoi alors la chose espérée par le prophète alayhi salatu wassalam a été cité dans son invocation avant même d'avoir cité l'action de l'espoir en disant « Ta miséricorde, j'espère » au lieu de dire « J'espère ta miséricorde ». La réponse est que le fait d'avoir cité la miséricorde avant l'espoir revient à dire que la seule chose que moi, le serviteur d'Allah, j'espère, c'est la miséricorde d'Allah uniquement qui passe avant tout. Allahu Akbar. Ne me laisse donc pas m'en remettre à ma personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Qui est-ce qui tient ces propos, chers croyants? Le messager d'Allah. Qui est-il? L'homme le plus proche d'Allah, l'homme le plus pieux, l'homme qui a réussi. Et pourtant, et parce qu'il connaît Allah comme il se doit, il demande à Allah de ne jamais le laisser s'en remettre à sa personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Car dès lors qu'Allah nous laisse nous en remettre à nos personnes, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, c'est la perte totale. Et pour le voir, vous n'avez qu'à regarder et observer autour de vous. Les gens qui ne vivent pas soumis à Allah sont livrés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés avec leurs affaires. C'est pour cette raison qu'ils ne font que se plaindre, qu'ils ne sont que attristés, qu'ils ne sont que peinés parce qu'ils ne s'en remettent pas à leur Créateur. Ainsi, le Créateur les a oubliés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nasullaha fa ansahum » Nasullaha fa nasiyahum, pardon. Ils ont oublié Allah, Allah les a alors oubliés. Également, il nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, wa la takunu kal ladhina nasullah fa ansahum anfusahum. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah les a fait oublier, leur a fait oublier leur propre personne. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de le réformer et proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si le serviteur d'Allah prononce ces paroles dans lesquelles il trouvera la droiture de son avenir religieux et mondain et qu'il prononce ces paroles avec un cœur présent et une intention véridique, tout en fournissant les efforts afin d'atteindre son but recherché, nul doute qu'Allah, incha'Allah, lui accordera sa demande et lui donnera son espoir et fera en sorte que ses soucis soient dissipés et changés en joie et en bonheur. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.